Non seulement l'opposition, les réseaux sociaux, beaucoup de gens se sont déchaînés contre, encore une fois, Mélanie Joly, la ministre du Patrimoine canadien qui a dû défendre bec et ongles la raison pour laquelle elle s'est arrêtée à Séoul, en Corée, en route vers une mission commerciale vers la Chine populaire. Elle a déclaré qu'elle était là pour en apprendre davantage sur le phénomène de la K-pop, dont vous saurez tout, mesdames, messieurs, en nous écoutant encore pour une demi-heure. Les stratégies mises en place par l'État coréen afin de stimuler ce qu'ils considèrent en Corée du Sud comme une exportation culturelle. Alors, il y a des gens qui ont dit, ça se peut pas, Mélanie Joly, qui se permet un voyage à Séoul, ça coûte cher quand même de faire ce détour, elle est là depuis mercredi pour apprendre sur la K-pop. Alors, on s'est dit, au moins, on va savoir ce que c'est que la K-pop. Sébastien Goulet était annonceur aux derniers Jeux olympiques. Il a vu plusieurs performances de groupes K-pop entre les matchs de hockey. Sébastien, bonjour.
Bonjour, Paul.
Vous aviez ça en spectacle pendant quoi, les entractes ou entre les matchs?
Effectivement, en avant-match, on a eu des performances très variées. Ça allait de la musique traditionnelle, violon, piano, au fameux groupe de K-pop. Et même durant le match, nous, on avait deux DJ, un Américain et un Coréen, qui se gâtaient avec des chansons qui sont très entraînantes. Et c'est la recette de la K-pop. Ce sont des refrains à consonance anglaise pour la plupart. Une chanson qui m'est restée dans la tête pendant les Jeux, c'est « Likey, Likey, Likey » de Twice. Ça entre dans la tête, vous l'entendez une fois, deux fois, et puis vous l'avez dans la tête pour des semaines et des semaines. C'est une véritable usine à culture. Et c'est d'ailleurs une des facettes que notre producteur à Pyeongchang voulait exploiter, voulait faire découvrir aux gens. L'an dernier, il y a plusieurs chaînes qui font des émissions là, un peu du genre La Voix pour créer des nouveaux groupes. Et c'est au-delà d'une quarantaine de groupes de K-pop qui ont été formés et qui font des tournées un peu partout, là, que ce soit en Asie, même à travers le monde. C'est vraiment une culture là, qui a tendance à vouloir dominer là, la culture asiatique de ces temps-ci.
Il y a même une troupe qui est allée à Pyongyang, au nord, donc en Corée du Nord, la semaine dernière, performer devant le dictateur Kim Jong-un.
Exactement. Ce qui a mis vraiment la K-pop sur la map monde, si vous permettez, c'est sans aucun doute Gangnam Style de Psy en 2012, au-delà de 2 milliards de vues YouTube, et c'était un succès. À toutes les fois qu'on faisait jouer cette chanson-là à l'aréna, tout le monde le fredonnait. J'aurais cru qu'il y aurait peut-être une écœur en titre, si vous me permettez l'expression, de la chanson, mais non, c'est encore très, très populaire en Corée du Sud.
Est-ce que tu penses, je suis un peu mal à l'aise de le dire parce que, bon, coudonc, chaque pays a droit d'aimer ce qui lui plaît en matière de culture, mais ça a l'air quétaine. Je trouve ça quétaine, la K-pop.
Je te dirais que c'est peut-être une vision d'un peuple occidental, parce que lorsqu'on était dans les endroits pour se nourrir, dans les temps de bénévoles, et qu'on présentait des concerts de K-pop, la plupart de nos bénévoles âgés de 14 à 19 ans étaient véritablement scotchés à l'écran et regardaient tout ça.
Ah,
moi,
oui.
Je ne connaissais pas ces groupes-là, ni d'Ève ni d'Adam, mais c'était des 40, des 50, des 60 jeunes femmes devant les écrans à chanter, à danser avec ce qui se produisait à la télévision. Donc, c'est encore vraiment là, au cœur du style actuel de la Corée du Sud.
Merci beaucoup, Sébastien Goulet. On va sortir d'ailleurs avec Likey Likey de Twice.
Merveilleux.
Au revoir.
Salut, Paul. Bye-bye.
Et ce qui nous permet d'accueillir notre expert en K-pop, Jordan Dupuis, chroniqueur à Weekend Extra. Salut, Jordan.
Salut, Paul.
La connaissais-tu, celle-là, Likey?
Oui,
Likey,
on l'a tous
Twice
déjà entendu au moins une fois. Si tu passes ne serait-ce qu'un peu de temps sur Internet, cette chanson-là a déjà popé dans ton fil YouTube. Mais Sébastien Goulet avait raison, parce que ce qui a parti la fièvre de la K-pop, c'est cette chanson-là. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Et mon Dieu, que j'aimerais te voir faire une parodie de Gangnam Style après une parodie de La Voix, Paul.
On va faire ça avec Marc Labrèche la saison
oui,
prochaine.
Oui, c'est ça, exactement.
Mais le gars qui chante ça, là, ce Psy.
Oui, Psy.
Oui, mais on prononce ça Psy, je crois.
Ouais.
En tout cas, P-S-Y.
Oui.
Il y a l'air d'un mononcle chantant.
Oui, je suis bien d'accord.
Un mononcle chantant, bedonnant.
Oui.
Et comment ça se fait que ça a tellement
Sébastien Goulet a mis le doigt sur quelque chose. C'est vraiment cette fascination pour la culture américaine, hein, parce que Gangnam Style, Gangnam, c'est un quartier très huppé de Séoul où les gens dépensent l'argent, vivent la grande vie. Et lorsqu'on regarde le vidéoclip de Psy, qui est paru quand même en juillet 2012, là, on réalise à quel point ils sont fascinés par le bling-bling des Américains. Et cette chanson-là là, est rentrée directement numéro un au classement sud-coréen, le Gaon Chart, qui est un peu l'équivalent du Billboard américain. Et ça a été jusqu'en 2014 la chanson la plus regardée sur YouTube avec justement plus de 2 milliards de vues. Ensuite, ça a été dépassé par une chanson du film Dangereux 7, See You Again, et après Despacito est rentré dans le top.
C'est épouvantable, Despacito est
rentré. C'est rendu à 5 milliards de vues, là.
Ça n'a aucun sens.
Ça n'a pas de sens.
Mathieu Roy nous a dit ça, je ne le croyais pas. 5 milliards!
Et c'est du monde. On est quoi, 7 milliards sur la Terre?
Non, plus, ouais, à peu près. 7 à 8 milliards. Oh non, s'il vous plaît.
Ça va te suivre, ça, Paul.
Ben, tu vois, ça, je trouve ça encore plus quétaine que la K-pop.
Je suis un peu d'accord. Il y a quelque chose de moins assumé que la K-pop.
J'aime mieux la K-pop.
Mais tu sais, Paul, la K-pop s'est rendue vraiment extrêmement big. Des Kanye West, des Snoop Dogg ont collaboré avec des artistes de K-pop. Toronto a maintenant son festival de K-pop qui va prendre place du 19 mai au 20 mai de cette année. Donc, une espèce de grosse convention de culture coréenne. En fait, cette vague-là de culture coréenne, ça s'appelle la Hallyu, donc c'est les jeux vidéo parce qu'ils sont fans de jeux vidéo, de bouffe. Hein. Il y a une explosion d'intérêt pour la nourriture coréenne. Il y a plein de restaurants coréens qui ouvrent partout sur la planète, des films d'animation et surtout des films, hein, des suspenses sud-coréens. Moi, je suis un fan du festival Fantasia que je visite à chaque année au mois de juillet à Montréal.
Est-ce que c'est des films comme ceux indiens de Bollywood?
C'est un peu moins...
Avec des drames romantiques, avec un méchant qui...
Il y a ça aussi, mais il y a beaucoup d'histoires de suspense, de meurtres psychologiques très dark, pluvieux. Hein. C'est très, très bon. Donc, ils ont vraiment développé une culture sud-coréenne et ça, c'est vraiment une initiative qui est gouvernementale. Ça a commencé quand? Ça a commencé au milieu des années 90 quand... que le ministère qui était en place a décidé de favoriser l'économie du pays. Il s'est dit, à part des chars Hyundai, qu'est-ce qu'on peut bien mettre sur la map pour attirer la planète vers la culture sud-coréenne? Donc, ils ont développé, ils ont injecté beaucoup d'argent dans la culture et ils se sont dit, les gens du pays vont consommer la culture coréenne, que ce soit, comme je vous l'ai mentionné, les jeux vidéo, la bouffe, la musique, etc. Ce qui va rendre le pays cool et donc va être plus porté à acheter des produits coréens suite à ça. Et ça fonctionne parce que maintenant, la Corée du Sud, c'est quand même un des centaines de pays du monde, mais on en parle énormément pour toutes les raisons.
D'abord, premièrement, c'est absolument remarquable. Oui. Après cette guerre effroyable qui est survenue au début des années 50, ils avaient déjà été envahis d'ailleurs par le Japon. La Deuxième Guerre mondiale n'a pas été facile pour eux. Ils se sont bâtis une société, évidemment, à l'inverse du Nord, qui va peut-être finir par s'ouvrir un jour. Mais c'est absolument remarquable.
Oui,
on n'a qu'à regarder leur industrie là, de Samsung.
Des télécommunications,
allant jusqu'à Hyundai, les voitures.
Et on consomme plein de produits sud-coréens sans le savoir. Donc, c'est vraiment un revers extraordinaire pour la culture sud-coréenne. Et il y a de quoi s'intéresser. Donc, Mélanie Joly, je comprends que c'est aux frais des contribuables, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant à aller tirer là-dedans.
Tout simplement écouter notre émission et te consulter.
Parce que je vais lui expliquer tout comment ça fonctionne. Bon. Alors, la K-pop, c'est qui a inventé ça? En fait, au milieu des années 90, comme je vous disais, il y a eu ce revirement culturel-là. Et SM Entertainment, qui est une espèce de grosse compagnie, une agence de talent, une agence de voyage, société de production de films, un label, ont décidé de créer le premier groupe de K-pop afin de stimuler justement la culture sud-coréenne. Alors, ils ont créé le groupe HOT. C'est un boys band qui a été créé sur mesure, un peu à la Simon Cowell. Là. Donc, on prend des jeunes garçons qui ils ont l'air de jeunes éphèbres. Un peu androgynes. On écoute ça. Ça, c'est une chanson de 1996 et c'est une chanson qui a été vendue 7,6 millions.
96.
C'est la première chanson de K-pop. Donc, Donc, il y a quelque chose d'extrêmement léger, rigolo, extrêmement coloré. Donc, lorsque vous regardez ça, on dirait des jeunes ados. Évidemment, la fluidité des genres auprès des gars et des filles en Corée du Sud est vraiment présente. Des fois, on a l'impression que ce sont de jeunes filles, des fois des jeunes garçons. Ils sont maquillés, ils sont coiffés. C'est extrêmement fascinant. Donc, ça, c'est un des premiers hits de la culture sud-coréenne, de la K-pop. Ensuite de ça, on se ramène maintenant récemment là, avec un groupe de filles super populaire qui s'appelle Blackpink. Je vous en parle, on écoute un extrait, je reviens avec ça.
Et ça, là, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la K-pop.
Exactement. Donc, ce groupe féminin-là, il s'appelle Blackpink. Et ça, c'est typique de la K-pop qui a évolué au fil du temps. En fait, c'est ça, ce groupe-là a été fondé sur mesure par YG Entertainment, qui sont les compétiteurs de SM Entertainment. Donc, il y a une guerre auprès de la K-pop. Ce sont quatre filles. Et le style musical, là, c'est vraiment, si vous regardez le vidéoclip de cette chanson-là, c'est vraiment des petites collégiennes. Et elles ont les cheveux blonds, comme des Américaines. Elles ont toutes des yeux bleus avec des verres de contact pour ressembler à des Britney Spears. Elles sont très américanisées et il y a vraiment une fluidité des langues. On passe de l'anglais au coréen en 2 secondes et quart. Parfois, on a l'impression que c'est une langue qui n'existe pas.
Il nous reste peu de temps, mais on veut terminer avec le boys band qui domine le monde
oui,
de la K-pop.
Oui, ce boys band-là s'appelle BTS et ils ont performé cet automne au American Music Awards pour la première fois de l'histoire. C'est un boys band qui fonctionne extrêmement bien, qui s'appelle BTS. Ils sont tellement big, là, ce sont 7 garçons et c'est la première fois que les Américains reçoivent un groupe de K-pop sur scène lors des American Music Awards. On écoute ce que ça donne.
Pourquoi ils viennent pas les bands de K-pop, les petites filles là ou les petits boys bands ici à Montréal?
Ben ça s'en vient, Paul, parce que évidemment il y a vraiment un intérêt. Juste cette vidéo là de BTS et de la chanson DNA, ça a été vu à peu près 330 millions de fois. Donc ça s'en vient. Tranquillement la vague arrive. Il y a quelque chose de fascinant, d'exotique, de kitsch assumé et justement la culture sud-coréenne de la K-pop se lance là-dedans. Et sache, et je termine avec ça, qu'il y a une rivalité entre la K-pop et la J-pop qui est la pop japonaise. Alors, il y a un conflit entre les deux.
Il y a toujours eu un conflit entre le Japon et la Corée.
Et ça se traduit même jusque dans la pop.
Merci beaucoup, Jordan Dupuis. Évidemment, une des stars du week-end avec Mathieu Beaumont et qui aurait pu nous éviter une dépense de la ministre Mélanie Joly.
Ben oui, elle aurait dû m'appeler.
Elle aurait pu l'appeler. Il aurait tout expliqué ça comme il l'a fait en 12 minutes.